en parle. Yves Alain Cornu.
J'entends grésiller les lézards. Sur le mur, l'ombre d'un busard a glissé. Dans le bleu céleste plein d'un soleil incandescent, l'air tremble. Et moi, m'assoupissant déjà dans le silence agreste, je gagne ma couche à l'abri des parois blanches, sans lambris, au creux de la maison modeste où chaque jour je vais m'offrir le plus délicat des plaisirs. Je fais la sieste.
Une archive savoureuse, extrait d'un poème de Jean Villard-Gilles, Mathieu Truffert. Alors, un grand amateur de sieste, semble-t-il.
Oui, j'ai un petit peu hésité à vous diffuser cet extrait, en réalité, même s'il est merveilleux. Hein, ça a été écrit en 1957, un jour d'été en Italie, on y est presque. Parce que la sieste de Gilles, c'est un peu celle des vacances, celle qu'on se permet quand on a le temps. Ce luxe qui rime avec soleil et peut-être même avec paresse.
Farniente.
mais c'est bon et c'est beau, hein, mais... On l'a entendu tout à l'heure avec le témoignage de Pierre, la sieste c'est peut-être parfois beaucoup plus et beaucoup mieux que ça. Ça peut vraiment être un outil pour être plus performant au quotidien, dans son corps et dans sa tête, et pas seulement au lendemain d'une grosse fête ou pendant ces fameuses vacances en Italie. Donc il faut se poser des questions sur la sieste. Peut-on apprendre à faire la sieste? Est-ce qu'il y a des techniques? Combien de temps idéalement? Est-ce qu'on est tous égaux devant la sieste? Est-ce qu'on doit tous faire exactement la même sieste? Plutôt assis, couché ou pourquoi pas debout. Encore, est-ce que la sieste interfère avec le sommeil de la nuit? À quoi il faut encore peut-être faire attention?
Des questions qu'on attend également à notre standard au 0800 108 D108. Cette émission, c'est bien sûr la vôtre qui nous écoutez. N'hésitez pas donc à nous parler de vos techniques de sieste ou si vous n'y arrivez pas justement à faire ce pas de prendre un moment pour faire la sieste, appelez-nous au 0800 108 208 ou laissez-nous un message vocal au 076 206 12 12. On retrouve nos deux invités qui vous répondront durant cette heure interactive. Raphaël Heinzer, professeur associé médecin-chef au Centre d'investigation et de recherche sur le sommeil au CHUV. Alors, question obligatoire, est-ce que vous faites la sieste?
Alors, quand j'ai pas assez dormi le week-end, oui, ça m'arrive de faire la sieste et c'est extrêmement réparateur, un grand plaisir.
C'est mieux de faire une sieste durant le week-end que d'essayer de faire la grasse matinée puis de dormir le plus longtemps possible le matin?
Alors, c'est vrai que le risque, si on dort plus longtemps le matin, c'est qu'on aura plus de difficultés à se lever après, quand on reprend la semaine, parce que notre cerveau aura un peu décalé sa phase de sommeil. Donc, mieux vaut se réveiller et faire une petite sieste en milieu de journée.
Raphaël Heinzer, on le devine déjà un peu, on a entendu ce témoignage, on vous entend avec votre sieste. Alors, de temps en temps, il y a plusieurs types de siestes. Comment est-ce qu'on trouve la sieste qui nous convient?
Alors ça dépend aussi de nos possibilités. On ne peut pas forcément faire un cycle entier de sommeil comme certains le font en Espagne par exemple, où là carrément les gens rentrent à la maison, se mettent en pyjama et dorment pendant un cycle entier qui est 90, 100, 110 minutes et puis après ressortent rafraîchis. On peut faire des siestes plus courtes qui sont réparatrices et là il faut faire attention à la durée. Donc si on a une sieste d'une durée de 10-15 minutes, on entre en sommeil léger, peut-être intermédiaire, on en ressort plus facilement et on est tout de suite en forme. Par contre, si on fait une sieste un peu intermédiaire qui va durer 30-40 minutes, on a beaucoup plus de chances d'être en sommeil profond et là on peut sentir ce qu'on appelle une inertie du sommeil. C'est-à-dire qu'on sort de la sieste et on est encore un peu vaseux pendant quelques temps avant de sentir l'effet favorable.
Tout ça est assez technique au fond. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que ça peut-être, ça s'entraîne même de faire la sieste?
Alors le témoignage de Pierre tout à l'heure était très intéressant parce que lui il a vraiment une routine. Il a une image apaisante qui lui permet d'entrer dans sa sieste. Il y a toujours le même fauteuil relax qu'il utilise et cette routine est extrêmement favorable à l'endormissement, autant le soir. Les petits-enfants aussi, on leur raconte la petite histoire et ça prépare au sommeil. Et pour la sieste, je pense qu'on peut dire la même chose, les gens qui s'entraînent à faire la sieste, ils ont déjà un petit rythme de sieste et en plus cette routine les aide à s'endormir plus facilement.
Vous êtes un médecin, vous êtes un scientifique, vous étudiez le sommeil tous les jours de façon précise. Est-ce que la sieste, ça s'étudie scientifiquement?
Alors, il y a eu des études très intéressantes, notamment d'un scientifique qui s'appelle Faro en France, où il avait pu démontrer que les personnes qui ont un manque de sommeil pendant la nuit et qui font une sieste pendant la journée arrivent à diminuer leur niveau de stress, améliorer peut-être même leur capacité immunitaire avec cette sieste quand on est en situation de manque de sommeil. Donc là, il peut vraiment y avoir un bénéfice physiologique mesurable de la sieste.
Également, toujours avec nous, Corinne Mao, sophrologue spécialiste en bien-être et santé au travail, membre de l'Institut Suisse de la qualité de vie au travail. Bah, déjà, même question qu'à Raphaël Heinzer. Vous-même, vous pratiquez la sieste?
Oui, pratiquement tous les jours. 5 à 15 minutes pendant la semaine au travail. et puis un petit peu plus longtemps, jusqu'à une demi-heure le week-end.
Alors, on vient d'entendre, vous êtes sophrologue. Rappelez-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites, et puis dans quelle mesure ça peut aider ou ça peut aider pour, oui, ça peut aider pour la sieste.
Alors, la sophrologie, c'est une méthode d'entraînement. Donc, on parlait d'entraînement tout à l'heure, c'est intéressant. Un entraînement physique, donc on fait des techniques qu'on répète au quotidien, justement, pour rétablir l'équilibre entre le corps et l'esprit. Souvent, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, c'est quand ça se déséquilibre.
Concrètement, on fait comment ?
Alors, on fait des techniques de respiration, de visualisation. Vraiment, on va aller convoquer tout notre registre sensoriel, donc se connecter à nos sensations corporelles, tout
et
simplement.
Et ça peut favoriser l'endormissement ?
Oui, ça peut favoriser l'endormissement le soir, le rendormissement la nuit. Et la journée, on peut faire des techniques flash, donc de 5 à 15 minutes, où là, on n'est pas dans une véritable sieste, on va aller chercher le sommeil. L'intention, c'est plutôt d'être relié, vraiment d'être attentif à ce qui se passe dans le corps. Et c'est en étant dans le corps qu'on va amener la détente. C'est un effet collatéral. Voilà.
Il y a une deuxième bonne raison, au moins une deuxième bonne raison pour laquelle vous êtes là. Vous intervenez souvent en entreprise et notamment avec des équipes qui ont un travail irrégulier ou qui travaillent la nuit. Expliquez-nous un petit peu.
Oui, exactement. J'interviens par exemple, dans le paramédical. Il y a des horaires coupés, des personnes qui ont des shifts, qui travaillent des fois de nuit, ou à l'international, des gens qui ont du jet lag, effectivement. Et d'avoir ces techniques flash leur permet de récupérer quand ils ont besoin.
Le guichet dont on parle, 0800 108 208.
Et on attend vos questions et témoignages au 0800 108 208. On a déjà reçu d'ailleurs plusieurs questions, remarques par écrit ou à notre standard, Mathieu.
Oui, on a reçu des questions. Alors là, j'ai dû changer la pile de ma souris pour rien vous cacher. Celle de Marc qui nous dit « J'ai appris à faire la sieste car j'en ai besoin. Je voyage beaucoup pour mon travail. Ma technique, je m'assieds avec une petite cuillère dans la main. Je me relaxe, je m'endors et quand la cuillère tombe, c'est terminé. Je peux faire des siestes partout, dans les toilettes, dans les taxis. Je recommande aussi le livre de Jacques Chirac, tiens, qui était un grand fan de la micro-sieste. Alors, il faisait des nuits très courtes, semble-t-il, mais il faisait des siestes. Réaction, Raphaël Heinzer, ce petit truc, la cuillère en bois pour ne pas sombrer dans le sommeil profond dont vous parliez tout à l'heure.
Alors là, on est vraiment dans le sommeil très léger, puisque dès qu'on arrive dans le sommeil, notre musculature se relâche, d'où ensuite la cuillère qui tombe. Donc on est à mi-chemin entre la relaxation et le sommeil. Je ne pense pas qu'on ait un temps de sommeil très, très prolongé. Donc le bénéfice est peut-être moins long qu'une sieste un peu plus longue, mais c'est déjà une forme de relaxation qui peut permettre de récupérer.
Donc vous valideriez peut-être quelques minutes de plus de vrai sommeil ?
Alors si on ne peut pas se permettre de faire plus, pourquoi pas faire ça ? Mais si on peut, disons, faire 10-15 minutes, on est quand même, c'est plus réparateur que ces micro-micro-siestes.
Corinne Mao, il y a aussi un côté stressant d'enfin s'assoupir et la cuillère tombe, ça nous réveille. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté qui peut être plus stressant que relaxant ?
Alors écoutez, j'ai pas eu de retour de cette sorte. Je pratique cette technique de temps en temps avec
c'est Salvador
un
Dali,
trousseau de clés,
connu
la sieste de Dali,
ça.
Exactement, avec un trousseau de clés. J'ai pu le faire en entreprise, un peu pour dédramatiser aussi les personnes qui sont complexées de s'endormir justement au travail. Et c'est vraiment très récupérateur. J'ai pas eu de retour que c'était stressant.
Voilà, alors bravo à Marc de pratiquer cela, merci beaucoup. C'était le premier témoignage d'une longue série jusqu'à 10h. Voici, Willy Dezelu, lui c'est notre programmateur musical. Alors lui, sa proposition pour une bonne sieste, c'est ce titre d'Henri Salvador, Dans mon île. On se retrouve juste après au 0800 108 208.
Dans mon île. Soleil qui nous caresse et l'on paraisse sans songer à demain dans mon île. Ah, comme il fait doux. cocotier qui se balance en silence. Nous rêvons de nous dans
guichet dont on en parle, 0800 108 208.
Et nous parlons de la sieste jusqu'à 10h à ce guichet interactif au 0800 108 208. Vous le savez, vous pouvez également nous laisser des messages vocaux, WhatsApp vocal, mais aussi Tréma, Signal ou Telegram au 076 206 12 12 ou nous écrire un email à onenparle@rts.ch. Raphaël Heinzer et Corinne Mao sont avec nous jusqu'à 10h, Mathieu Truffert.
Oui, et on a reçu des messages par mail. Clarisse Delémont, j'ai commencé à faire la sieste en 1999, donc il y a 25 ans. Quand j'avais mal au dos, j'avais besoin de prendre un temps pour moi. Au début, je mettais un réveil, mais maintenant, ma body clock, mon horloge interne, probablement, me réveille toujours au bon moment. Alors, j'aimerais vous entendre tous les deux là-dessus, mais peut-être d'abord, Raphaël Heinzer, on mémorise, le corps mémorise un temps, un moment dans la journée pour faire la sieste, et ensuite, ça devient un peu automatique.
Effectivement, si on se permet toujours le même type de sieste, notre cerveau peut intégrer le fait qu'on a envie de se réveiller après 20 ou 25 minutes de sieste. Comme pendant la nuit, par exemple, notre cerveau continue à fonctionner un tout petit peu. Parce que si on doit prendre un avion, par exemple, on va se réveiller juste un petit peu avant l'heure. Donc notre cerveau continue à fonctionner et il peut se programmer spontanément pour une sieste si on a l'habitude de faire la même durée.
Est-ce qu'il y a un moment favorable dans la journée pour faire la sieste? On dit souvent que c'est après le repas de midi quand on digère.
Alors, c'est tout à fait juste. Donc il y a deux fenêtres pour le sommeil, une grande fenêtre bien sûr au milieu de la nuit où on a de la facilité à s'endormir, où notre sommeil est vraiment profond, et puis aussi en début de journée, indépendamment des repas, contrairement à ce qu'on croit. Donc même si on ne mange pas, on a cette facilité d'endormissement vers 13-14 heures, comme ça, juste un début d'après-midi, qui nous permet de vraiment entrer dans la sieste, comme si on était génétiquement programmé à faire la sieste.
Corinne Mao, on parle peut-être un peu de la position dans laquelle on fait la sieste. Tout à l'heure, on avait un témoignage, la cuillère de bois qui tombe, on imagine quelqu'un qui est assis. Qu'est-ce que vous recommandez au fond? Assis, debout, couché, au lit, ou qu'est-ce qu'il faut faire?
Je dirais, ça dépend des circonstances. Si on est au travail et qu'on veut rapidement pouvoir reprendre son poste de travail, assis, c'est quand même, je pense, le bon compromis. Voilà, le dos bien confortablement reposé contre le dossier de la chaise, voilà, pour pas tomber. Mm-hmm. Et ça permet de, voilà, en quelques minutes, on disait de 5 à 15 minutes, pouvoir reprendre le cours de sa journée. Si on s'allonge après, c'est plus difficile de revenir.
Mais est-ce que, comme Clarisse, on peut vraiment faire confiance à son horloge interne et se dire, je mets même pas de réveil, même si j'ai un train à prendre dans une heure, je sais que ma sieste, enfin mon corps va se réveiller, ou quand même, des fois, on se fait piéger par notre sieste et ça dure plus longtemps. Raphaël Heinzer.
S'il y a vraiment, vraiment une échéance à ne pas rater, je mettrai quand même un petit réveil, parce que des fois, on peut tout à coup dépasser. Je reviens juste sur la position, je trouve ça très intéressant, parce qu'il faut que notre corps puisse se détendre sans que ça nous réveille. Et on a tous vécu ces vols où on est tous coincés dans un fauteuil, on essaie de dormir, puis chaque fois qu'on s'endort, il y a la tête qui part d'un côté ou de l'autre. Et c'est vrai que ça, c'est pas propice à la sieste. Et d'ailleurs, une étude qui avait montré que ceux qui ont la chance de voyager en business et qui peuvent vraiment se coucher ont un sommeil quand même plus réparateur et plus profond. Donc il faut vraiment que la tête soit bien calée quelque part pour qu'on puisse s'endormir et que le relâchement musculaire ne nous réveille pas à chaque fois.
Comment faire la sieste quand il y a des interférences externes? C'est un peu la question de Michel à Neuchâtel qui nous dit comment faire des micro-siestes quand on a beaucoup de bruit autour de nous, par exemple pour les navigateurs. Ben voilà, Michel fait de la voile. Corinne Mao, comment est-ce qu'on trouve la tranquillité pour se laisser aller quand il se passe plein de trucs autour de nous?
C'est un entraînement. On l'a dit tout à l'heure, on a parlé de rituels, c'est exactement ça. Ça s'entraîne et j'ai des beaux témoignages de personnes qui pratiquent régulièrement la sophrologie avec moi et qui s'entraînent aussi toutes seules, hein, c'est partie de la méthode, qui me disent « Ah, il y avait du bruit, c'était dans le fond, je m'en rends même plus compte, ça me dérange plus ». J'ai travaillé avec des contrôleurs aériens justement qui récupèrent très rapidement. Alors j'en profite pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur la position. Encore une fois, en sophrologie, on cherche pas à s'endormir, vraiment. C'est plutôt la relaxation qui permet de récupérer. Voilà. Donc on est au bord du sommeil.
Concrètement, on fait abstraction des bruits qui sont autour de nous, on les ignore, on les accepte, ou comment est-ce qu'on fait?
C'est plutôt lors de l'acceptation, ils font partie du décor, comme tout le reste finalement.
0800 108 208, on continue d'égrener vos questions laissées à notre standard, Mathieu.
J'ai dormi avec mon Apple Watch pendant un mois, c'est Alexandra qui nous écrit. J'avais un sommeil profond de maximum seulement 3 heures et entre 20 et 30 minutes. Est-ce que ces appareils connectés sont fiables? Peut-être vous, Raphaël Heinzer, est-ce qu'on peut mesurer, là on va parler plutôt de sieste aujourd'hui, est-ce qu'on peut utiliser un assistant externe comme ça pour mesurer la qualité de son sommeil pendant une sieste?
Alors, ces appareils connectés se basent sur les mouvements et sur les variations de la fréquence cardiaque pour estimer le sommeil. Donc, c'est notre cerveau qui dort, c'est pas notre poignet. Et donc, c'est vraiment une mesure très, très indirecte, disons, de notre sommeil. Pendant la nuit, le logiciel va nous montrer des beaux cycles de sommeil, mais si on regarde les données brutes, on serait un petit peu déçu. Donc là, il y a vraiment un processing des données qui nous donne l'impression que la montre vraiment arrive à estimer nos cycles de sommeil, alors que c'est pas tout à fait ça.
En parlant des cycles de sommeil, on parlait aussi de la body clock, hein, comme disait cette auditrice de Lémon, son horloge biologique. Vous disiez, Raphaël Heinzer, un cycle, c'est 90, 100, 120 minutes, donc 1h30, 2h. Est-ce que c'est à partir du moment où on s'endort que commence un de ces cycles, ou est-ce que dans notre corps, on a un cycle tous les jours 21h, 22h30 et puis on doit se raccrocher à ces cycles-là, ou est-ce qu'ils s'adaptent en fait au moment où on ferme les yeux?
On a clairement un rythme circadien. Donc on a une horloge biologique qui peut être plutôt du soir, plutôt du matin. C'est là où la période de sommeil peut se déplacer d'une personne à l'autre. Après, la durée des cycles est relativement, peut-être génétiquement déterminée chez les personnes, mais ça peut varier bien sûr d'un cycle à l'autre de 5-10 minutes. Ça, c'est tout à fait possible.
Mais donc si on sait qu'on a un cycle où on s'endort mieux à 21h30, ça sert à rien de se coucher une demi-heure avant parce qu'on doit attendre le passage de son cycle, vous voyez ce que
clairement,
je veux dire?
Ça, c'est une question de rythme circadien. On a tous notre horloge interne qui favorise l'entrée dans le sommeil à une certaine heure et il faut se connaître. Et ça, l'idéal, c'est d'être en vacances et de se laisser aller. Quand on a envie de dormir, on va se coucher et ça nous apprend à nous connaître nous-mêmes.
Roland à Palaisieux nous dit « J'ai des interférences du sommeil dues à la lune. Est-ce que je peux récupérer en faisant des micro-siestes ?» Alors peut-être deux choses, Raphaël Heinzer. L'influence de la lune, on en parle beaucoup, ça fait partie de ces choses qui sont dans la sagesse populaire. Et puis, est-ce qu'on peut récupérer d'une mauvaise nuit en faisant une micro-sieste?
Alors d'abord, la lune, c'est clair que c'est très controversé et j'ai peur de décevoir notre auditeur.
Donc mais c'est pas scientifique.
Alors, on a pris la grande étude lausannoise Hypnolos où 2000 personnes ont été enregistrées et rétrospectivement, on allait voir mais dans quelle phase de lune ils avaient dormi. Et on a trouvé des micro-différences de 3-4 minutes entre les phases de pleine lune et les autres phases. Donc voilà, pas une influence majeure. On a probablement un biais de souvenir. C'est-à-dire que si on se réveille pendant la nuit, on n'arrive pas à se rendormir, on regarde par la fenêtre, on voit la lune pleine, on se dit « Ah ben voilà, c'est à cause de la lune ». Par contre, si on voit rien du tout, on se dit rien du tout. Donc il y a peut-être un petit biais cognitif de ce côté-là.
Avant qu'on enchaîne sur la suite de la réponse, Corinne Mao, la lune, vous y croyez?
Moi, je pense que ça dépend où je suis. Dans un endroit où il y a de la pollution lumineuse, je me rends pas compte. Mais effectivement, comme ça a été dit, si je me réveille la nuit et que je vois la lune, la lumière, oui, ça me réveille de voir la lumière, quoi, tout simplement.
Ensuite, il y avait la suite de la question de Roland. Après une mauvaise nuit, au fond, est-ce que la micro-sieste, ça peut être une parade ? On a compris que le sommeil, c'était une affaire de rythme. C'est ce cercle circadien que vous décrivez, Raphaël Anser. Cercle, j'ai utilisé le bon mot.
Circadien.
Rythme circadien. Est-ce que ça peut être un bon truc, en fait, après une mauvaise nuit, où il faudrait essayer de ne pas dérégler, en fait, ce qui est un sommeil normal, sain, la nuit ?
Non, c'est vraiment excellent. On a tous besoin d'une certaine quantité de sommeil sur les 24 heures. Donc, quelqu'un qui a besoin de 7h30, s'il ne dort que 6 heures pendant la nuit, ben oui, qu'il fasse une sieste pendant la journée, ça va lui permettre de récupérer, c'est extrêmement bénéfique. Par contre, les personnes qui ont de la difficulté à s'endormir, ou les gens qui se réveillent fréquemment pendant la nuit, on leur conseille de ne pas faire de sieste pendant la journée pour ne pas manger, en quelque sorte, pour ne pas anticiper le sommeil qu'il pourrait avoir pendant la nuit. Donc là, on risque d'aggraver une insomnie si on fait des longues siestes pendant la journée.
Stéphane nous dit « Pour moi, les siestes peuvent être compliquées car chaque fois que je m'assoupis, je m'endors comme pour une nuit. » Corinne Mao, qu'est-ce qu'on lui recommande à Stéphane ?
Bah, c'est justement de faire une petite technique courte entre 5 et 15 minutes maximum au bord du sommeil, dans de la relaxation qui va amener vraiment cette récupération physique, mentale, émotionnelle et qui ne va pas empiéter sur la nuit.
Est-ce qu'on peut maîtriser ce moment où on va tomber dans un sommeil lourd ? Est-ce qu'on peut l'empêcher ?
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, que quand on suit un guidage d'un entraînement de sophrologie, voilà, on va le suivre. Et à moins des gens qui ont vraiment des gros problèmes de sommeil, la modulation de la voix va influer, va réveiller la personne.
Corinne Mao et Raphaël Heinzer, vous répondez à notre public à toutes les questions sur la sieste jusqu'à 10h au 0800 108 208. Voici un peu de musique juste après un détour par la route.
Infotrafic RTS.
Un accident survenu entre Villars-Sainte-Croix et Crissier en direction de Genève est toujours en cours. Il provoque des bouchons sur la une des Cossonets et sur la partie nord du contournement des La Blècherette. Sur le contournement de Genève, il n'y a plus de véhicules en panne dans le tunnel de Vernier, mais le trafic en direction de Lausanne s'écoule toujours difficilement dès Bernay. Et puis, dans la zone industrielle de Givisier, dans le canton de Fribourg, la route André-Pilaire est fermée dans les deux sens suite à une intervention des pompiers.
There's a smile on my face, but it feels like you're already gone. Watch you carry the weight with your eyes telling me to move on, move on. Even if it's broken, it was good once, tell me you remember. Our days of stupid joking, young in love and laughing in the crowd. Slept on sandy beaches, woke up slowly breathing ocean air. Lost in tropic waters, swimming wild, just trying to simplify. I we're drowning. Carry the weight with your eyes telling me to move on, move on. What can I say?
I
Blue Lagoon, nouveau single des Genevois Stevens.
Pour envoyer vos messages vocaux par WhatsApp, Signal, Telegram ou Tréma, 076 206 12 12.
Bonjour, c'est Michel de Bruxelles. Je voudrais savoir si faire une sieste après avoir mangé est quelque chose d'optimal, en sachant que le taux de glucose dans le sang augmente évidemment après un repas. Et donc, pour éviter une hyperglycémie, est-ce qu'il ne faut pas mieux se mettre en mouvement? En tout cas, moi, depuis quelques mois, après avoir mangé, je résiste à faire une sieste. Et par exemple, je vais faire la vaisselle ou je vais faire une promenade après le repas, de telle manière que mon taux de glucides diminue. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci.
Merci Michel pour cette question. Alors, juste après manger la sieste, Raphaël Heinzer?
Alors, c'est la période où on entre plus facilement dans le sommeil, mais l'impact de la sieste sur le glucose, je vous avouerai qu'on ne l'a pas étudié directement. Donc, je ne peux pas directement répondre à ce monsieur.
Je ne peux pas m'empêcher de vous poser aussi la question de la caféine. On parle beaucoup de ces siestes caféinées. Ouais. Est-ce que vous en avez entendu parler? Donc, on boit un café, on fait la sieste, puis après, on se réveille en pleine forme. Corinne Mao, Raphaël Heinzer, vous avez entendu parler de ça?
Donc oui, ça c'est ce qui est recommandé quand on a tout à coup une baisse de vigilance au volant. Là, on doit s'arrêter selon la loi. Et puis, alors l'idéal, c'est de prendre un café, de dormir effectivement 10-15 minutes, puisque la caféine commence à faire effet après ces 15 minutes. Donc ça nous permet de récupérer, puis ensuite d'avoir l'effet favorisant la vigilance de la caféine. Et une fois qu'on se sent bien, on a le droit de reprendre la route.
Corinne Mao.
Oui, alors en sophrologie, on a aussi des techniques de relaxation dynamique, debout, avec des mouvements qui permettent de récupérer aussi, sans s'endormir, une fois de plus, et avec plus de vigilance, cette fois-ci, debout, très régénérante.
On parlait de la sieste des vacances de l'Italie à 9h34. On fait un crochet par le sud de la France, par téléphone avec vous, Sébastien Barque. Bonjour.
Oui, bonjour chez vous, bonjour.
Alors Sébastien Marc, vous êtes l'auteur d'un petit livre simplement intitulé « Les bienfaits de la sieste ». C'est paru en 2015 aux éditions. Donc c'est un petit livre de vulgarisation très bien fait. Il y a des définitions, il y a des exemples littéraires, il y a plein d'humour aussi dans ce livre et beaucoup de conseils pratiques. Alors votre livre est surtout un vrai plaidoyer pour la sieste. Est-ce que vous la jugez indispensable dans ce monde que vous décrivez comme frénétique et tendu?
Mais c'est exactement ça. La sieste est essentielle, surtout avec nos modes de vie où c'est vrai que beaucoup de choses s'accélèrent, tout ça. Et vos invités, Corinne et Raphaël, là, ont bien résumé quand même les grandes approches de la sieste. C'est vraiment important, la régularité et tout ça, oui.
Sébastien Marc, quels sont vos trucs à vous pour une sieste réussie?
Donc voilà, si on peut, la régularité, c'est le maître mot. Si on peut la faire chaque jour, c'est l'idéal. Effectivement, au moins chaque week-end. Et plutôt que s'en rajouter, il faut s'offrir ce moment. Et c'est vrai que, j'en parle dans le livre, il y a beaucoup de préjugés et sur la sieste. Et on peut s'auto-censurer en se disant « oui, c'est pour les paresseux, je vais perdre mon temps ». Je vais me relever fatigué, tout ça, c'est un peu des fausses idées qu'il faut vraiment mettre de côté, parce que la sieste est plus que bénéfique. Elle permet d'avoir une vie tout simplement meilleure, plus belle, et qui enlève pas les soucis, mais qui permet de les voir autrement.
Et justement, sur les préjugés de la sieste, ces clichés nord-sud, vous qui êtes, on l'a compris, dans le sud de la France, c'est une réalité, la sieste est plus acceptée plus on va au sud?
Alors j'ai l'impression, alors je suis un ancien bourguignon qui a vécu en Provence, ensuite à Toulouse et là qui est du côté de Figeac, donc on est encore dans le sud, mais on commence à se rapprocher du centre, mais effectivement il y aurait quelque chose de plus accepté dans le sud. Et après, ça dépend des milieux. Ce qui est dommage, je trouve, c'est par exemple dans les milieux du bâtiment, par exemple, où c'est vraiment des métiers difficiles, où il y a une grande amplitude horaire. Et on va se refuser de faire une petite sieste parce qu'il n'y a pas le temps sur le chantier, parce que je vais être jugé par mon collègue. Et ça, c'est quelles que soient les régions, il y a des milieux et des sortes de taquets mentaux à faire sauter pour s'autoriser en fait à faire la sieste et à écouter à s'écouter. Il y a plein de petits moments pour la faire. Et l'idéal est effectivement entre midi et 2 heures, et y compris en entreprise, c'est bien de pouvoir le faire.
Sébastien Marc, vous parlez de l'entreprise, oui. Vous parlez des chantiers. Est-ce que, selon vous, la sieste devrait être un droit inscrit peut-être dans le droit du travail ?
Oui, il devrait y avoir plus comme le sommeil, le manque de sommeil est un problème de santé numéro un dans beaucoup de nations. Il devrait y avoir beaucoup plus de législation là-dessus, de favoriser, d'accompagner la possibilité de faire la sieste. Ça, c'est une évidence.
Ben merci, on note ce dernier point. Merci beaucoup Sébastien Marc pour cette apparition quelques minutes par téléphone. Oui. On rappelle votre livre « Les bienfaits de la sieste » paru en 2015 aux éditions d'Angle. On vous souhaite une très belle journée.
Vous aussi, merci pour ce moment de radio, merci bien.
Et on reste, je crois, en France, puisqu'un auditeur nous écoute de France voisine. C'est Paul qui est en ligne maintenant. Bonjour Paul.
Bonjour à tous.
On vous écoute.
Vous attendez ma question?
Tout à fait.
Ah voilà, oui. Donc j'ai l'habitude de faire une sieste toute l'après-midi, donc ou dehors quand il fait beau ou dedans quand il fait pas beau. Et puis donc normalement je mets le réveil pour 20 minutes pour la sieste. Et ça m'arrive donc souvent que de dire « Marie, tu es bien là, donc pourquoi pas faire une deuxième ?» Alors je veux la question, donc je remets le réveil pour 15 minutes et je me suis dit donc est-ce qu'une sieste, deux siestes de 15 minutes qui se suivent, est-ce que c'est moins nocif pour le sommeil de nuit qu'une sieste de 30-35 minutes? C'est ça ma question.
Merci. Une double turbo sieste en fait, est-ce que ça compte double, Raphaël Heinzer?
Alors ça dépend plutôt du moment de la journée dans laquelle on fait cette sieste. Si on la fait le soir, proche du moment de s'endormir, là effectivement cette sieste pourrait être délétère, surtout chez les gens qui ont de la difficulté à s'endormir. Maintenant, le fait de se réveiller au milieu de cette sieste en faisant 2 fois 15 minutes plutôt que 30 minutes, c'est-à-dire que ça permet de revenir à la surface et peut-être d'avoir moins de risques d'être effectivement en sommeil profond si on se réveille au milieu entre les deux.
On a reçu plusieurs messages et des témoignages, notamment Catherine du Val-de-Travers qui nous dit « Mon mari était horloger, il préférait rentrer à la maison pour dîner. Au lieu de boire un café, il faisait une sieste. Cela l'aidait à mieux travailler l'après-midi, car c'est un métier de précision. » Bon, on a compris votre conseil tout à l'heure. La bonne idée, c'est café plus sieste. C'est bien ça, Raphaël Heinzer.
Pour ceux qui veulent vraiment faire une sieste courte et qui sont, par exemple, au volant, ça, c'est effectivement une manière de faire une sieste courte et de se réveiller beaucoup plus frais sans avoir cette inertie du sommeil.
Quand je travaillais, c'est Werner à Vernier qui nous contacte. Je faisais une sieste, je me couchais au salon sur le tapis. Quand je commençais à avoir un peu mal au dos, ça me réveillait et j'étais frais comme une rose. Corinne Mao, couché sur le tapis, choisir une position un peu inconfortable au fond, mais pour se relâcher, qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, c'est une idée pour ne pas la prolonger trop longtemps, effectivement, mais et pas rester dans quelque chose d'inconfortable, tout à fait, et ressortir avec plus d'énergie, encore une fois, c'est ce qu'on recherche.
Continuez de nous envoyer vos questions, vos témoignages. Appelez le 0800 108 208 pour ce faire. Vous adressez à notre standard ou même, comme Paul tout à l'heure, vous restez à l'antenne. Comme ça, on peut discuter directement avec vous ou vous faites comme Patricia au 076 206 12 12 et vous nous envoyez un message vocal.
Bonjour, on en parle. Alors, vive la sieste. Quand j'étais enfant, il y a très longtemps de ça, je voyais mon papa rentrer du travail, on dînait précisément à l'heure, après il allait se coucher au salon et il dormait un quart d'heure, il se réveillait en pleine forme et il repartait au travail. À l'heure actuelle, quand je traînate, je ne suis pas bien, je ne suis pas en forme par là, de toute façon, j'ai mon propre sophrologue. Un de mes chats miaule, miaule, miaule après le repas, quand il va à la vaisselle faite, il miaule derrière la porte de ma chambre jusqu'à ce que j'ouvre, il saute sur mon lit, il miaule, alors je m'allonge à côté de lui, il se love contre moi et on s'endort les 2 quarts d'heure, 20 minutes. Sur ce, après, tout d'un coup, il se réveille, il saute du lit et il s'en va. Et je me réveille aussi et je suis en meilleure forme. Voilà. Merci, au revoir.
Voilà, coach sieste à quatre pattes, ça va vous faire de la concurrence, ça, Corinne Mao.
Mais c'est magnifique ce témoignage. Ayant moi-même un chat, j'ai observé, effectivement, ils sont très sensibles au rythme biologique, donc c'est un bon indicateur.
Raphaël Heinzer.
Je remonte aussi sur ce que faisait son père. Donc son père, lui, rentrait du travail. Et c'est vrai qu'il y a une cinquantaine d'années, je pense que les gens, tout le monde rentrait à la maison entre midi et deux. Et le fait de faire une sieste pouvait augmenter les performances au travail. Mmh. Et certaines entreprises maintenant, alors même si les gens ne rentrent pas forcément à la maison, peuvent favoriser aussi la sieste. La RTS, par exemple, a même une salle de sieste.
Elle n'est pas super confortable.
D'accord, mais ça c'est important le confort. Et au fait, ils ont remarqué que les gens étaient plus performants l'après-midi si on les autorise à faire une petite sieste entre midi et deux. Donc certaines entreprises avant-gardistes autorisent cette sieste ou la favorisent même.
Yves Alain, vous avez parlé à l'instant de coach hein, avec Corinne Mao. Ça pose un peu la question, est-ce qu'on peut se faire aider pour faire la sieste? On a compris qu'on pouvait y aller tout seul. Hein, on a eu le témoignage de Pierre, il convoque des images, il fait ce travail tout seul. Est-ce qu'on peut faire des siestes accompagnées? Il y a toutes sortes d'outils sur Internet qui aident à faire la sieste. On peut faire la sieste avec une personne qui dit des... Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut se faire aider?
Bah oui, tout à fait. Effectivement, ce qui est intéressant en consultant un sophrologue, c'est qu'on pourra identifier vraiment la situation de la personne, son besoin, quelles sont ses difficultés de sommeil. Évidemment, c'est souvent en lien avec le rythme circadien de cette personne-là. Et on va pouvoir proposer des solutions adaptées, individualisées. Parce que sur Internet, c'est bien, mais c'est pas toujours adapté à la personne.
Voilà. Concrètement, comment est-ce que vous faites pour amener quelqu'un à dormir, quelqu'un qui se trouverait à côté de vous?
Alors encore une fois, en sophrologie, on n'amène pas complètement intentionnellement vers le sommeil. Ça peut arriver, et on ne va pas l'empêcher. Mais l'intention est plutôt d'être à l'écoute du corps pour relâcher les tensions, qu'elles soient physiques, mentales ou émotionnelles.
Et concrètement, vous lui parlez, vous lui...
Oui, avec un vocabulaire et un ton de voix. Je pense que vous êtes assez expert pour le savoir. On peut avoir induire quelque chose de reposant, de relaxant pour les personnes. Et puis ensuite, adapter à leurs besoins. Les personnes qui ne sont pas confortables les yeux fermés, qui sont trop angoissées, on va leur dire de garder les yeux ouverts. Celles qui sont pas bien assises, on va les allonger ou debout. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très personnel finalement. Et on peut les guider et elles-mêmes après partent avec leur enregistrement et pratiquent toutes seules au quotidien. On l'a bien dit, on répète tous les jours pour en faire un rituel, l'ancrer au quotidien et le répéter. Et après, ça fait partie vraiment du rythme de la personne en fait.
Qu'est-ce qu'on fait si on vous écoute, on se dit « allez, je vais me mettre à faire plus de siestes », mais ça vient pas. On persévère, on se dit « allez, si je ferme les yeux longtemps, je vais m'endormir » ou tant pis, ben, on n'a pas sommeil.
Mais c'est pas grave si on s'endort pas, c'est pas un problème. Le tout, c'est de se sentir mieux finalement. Et quand on pratique ces techniques-là, à un moment ou à un autre, on finit par lâcher. Pour certains, c'est un peu plus long, il y a besoin de plus d'entraînement. Ben, voilà, c'est une question de pratique comme de faire de la gym, hein, tout simplement. Il faut s'assouplir.
Vous décrivez une pratique professionnelle, quelqu'un va chez vous, il repart avec un enregistrement. Est-ce que moi, je peux utiliser ces techniques à la maison, par exemple avec mes enfants ou même mon épouse, je peux lui dire, voilà, je vais essayer de t'endormir ou de te faire en sorte que tu te relâches.
C'est quelque chose qui est très intéressant à pratiquer en famille. Encore une fois, il faut voir si c'est adapté à tout le monde. Il y a des techniques qui sont adaptées avec un vocabulaire pour que les enfants puissent le comprendre et se l'approprier. Voilà, avec des résidents d'EMS, je travaille en EMS, on va évidemment avoir des consignes plus simples, des techniques encore plus courtes. Voilà, ça s'adapte. Mais moi, j'encourage les gens à le pratiquer en famille, à en faire un rituel. On a des beaux exemples d'auditeurs. Moi, j'ai vu mon grand-père qui disait aller faire son courrier, qui faisait la sieste assis 10 minutes. Voilà, peut-être aussi, c'est pour ça que ça me parle. Et c'est un modèle. Et comme en entreprise, je dirais, ce serait aux responsables d'équipe ou aux dirigeants de montrer l'exemple. Je l'ai vu dans certains établissements où les gens, après, osent s'installer dans un EMS, dans un fauteuil pour faire la sieste.
Raphaël Heinzer, juste à votre arrivée, on a parlé de ça. Les chefs d'équipe devraient montrer l'exemple dans les entreprises.
Exactement. Même les entreprises qui autorisent de faire la sieste ou qui ont une salle réservée à la sieste, les gens ne l'utilisent pas forcément parce que c'est un peu stigmatisant. Quand c'est la personne qui a fait la fête la nuit précédente ou le paresseux. Et surtout quand on doit s'inscrire pour aller dans cette salle, ça pose problème parce que voilà, c'est encore un petit peu stigmatisant dans nos entreprises. Donc si le chef lui-même va faire la sieste, à ce moment-là, je pense que ses collègues accepteront de le faire aussi. Mais si lui ne le fait pas, ça risque d'être un peu difficile.
Appel à tous les chefs, faites la sieste.
C'est vrai que c'est peut-être plus facilement acceptable, typiquement à la RTS, puisque vous mentionniez notre salle de sieste, vu qu'on est une entreprise qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a toujours quelqu'un qui se repose, qui prépare pour la nuit. Donc, mais peut-être que dans des bureaux 9h, 17h, la sieste est peut-être encore plus difficile à faire passer. 0800 108 208, il reste un petit quart d'heure pour nous adresser vos questions. Voici Vita et Slimane, ça va, ça vient, et on prendra les dernières questions juste après.
Dis-le-moi si tu te sens seul. foule, quand plus rien ne sait toucher ton cœur. Dis-le-moi, dis-le-moi si ça fait trop mal. On t'a tellement déçu que tu dis qu'avoir mal c'est normal.
Tu le sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Dis-le-moi, dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Au fond, tout va bien. Dis-le-moi, dis-le-moi. Si plus rien n'a de sens, si tu n'as plus la foi, plus rien à donner. Dis-le-moi, dis-le-moi. Si t'as tout essayé, tout tenté, espéré que ton monde change. Tu sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Dis-le-moi, dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Au fond, tout va bien. On n'est pas bien là.
Ça va, ça vient.
Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Dis-le-moi, dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Au fond, tout va bien. On n'est pas bien là. Alors, on n'est pas bien. On n'est pas bien là.
On parle de sieste, Mathieu Truffert, avec nos invités Raphaël Lenzer et Corinne Mao. Corinne Mao, vous vouliez nous dire à quel point c'est possible et pas compliqué de faire une sieste, même assis à son poste de travail. Même nous, là, maintenant, vous pourriez
pendant une émission
nous endormir. Alors attention, si vous conduisez, c'est peut-être pas le moment de... Mais c'est vrai, on pourrait, avec quelques techniques, arriver à se détendre là, par
en
exemple.
En tout cas, être proche du sommeil. Mm-hmm. Encore une fois, c'est pas forcément nécessairement entrer dans le sommeil. Ça peut favoriser l'endormissement le soir et se prédisposer au sommeil.
Alors comment on fait?
Alors, on peut le faire maintenant, s'installer confortablement au fond de notre chaise, le dos bien contre le dossier,
voilà.
Les pieds à plat sur le sol, les mains sur les genoux. Et lorsque nous nous sentons prêts, nous pouvons fermer nos yeux, attirer notre attention vers notre respiration abdominale, sentir les points de contact de notre corps avec la chaise et avec le sol. Orienter notre attention vers notre tête qui se relâche, nos épaules qui retombent, le poids de nos mains sur nos genoux, le mouvement de notre respiration régulier, naturel, abdominal. Sentir le poids de nos fessiers sur notre assise, nos cuisses, nos mollets, nos pieds bien à plat sur le sol. Pour orienter notre attention vers notre respiration, nous pouvons poser nos mains sur notre ventre, bien sentir la respiration abdominale sous nos mains. Sentir ce mouvement régulier sans rien changer. Et davantage allonger peut-être nos expirations. Un peu comme si nous soufflions avec une paille
à l'expire pour rallonger nos expires.
Voilà, on pourra en faire un enregistrement podcast passer tous les jours. Merci beaucoup. C'est vrai que, je sais pas Mathieu pour vous, mais moi ça m'a assez rapidement plongé dans quelque chose d'autre, dans une détente. Alors on n'oublie pas qu'on on est à la radio et qu'on nous écoute.
J'avais ce petit stress de me dire, c'est vous qui parlez en premier ou c'est moi?
Merci beaucoup Corinne Mahoué. Comme quoi, effectivement, c'est possible en tout instant. Raphaël Heinzer, c'est aussi quelque chose dans le CHUV qu'on imagine comme une ruche avec des milliers d'employés, des patients partout, d'arriver à trouver un espace comme ça.
Je trouve que c'est très précieux de pouvoir se détendre déjà. Il y a déjà un bien-être lié à ça et ça peut préparer à la sieste aussi. Donc il y a différentes techniques de relaxation, de sophrologie ou même d'auto-hypnose qui étaient utilisées par exemple par les pilotes de Solar Impulse quand ils avaient le droit de faire des petites siestes quand le vol le permettait. Et Bertrand Piccard par exemple utilisait des techniques d'auto-hypnose pour se préparer à cette sieste de 20 minutes pour qu'elle soit le plus rentable possible.
0800 108 208, encore quelques minutes pour poser vos questions. On en a reçu encore, Mathieu.
Catherine nous dit, j'ai travaillé toute ma vie en horaire décalé et la power sieste, la sieste flash ou la turbo sieste m'a préservé la santé mentale et physique. Je continue à la pratiquer. Raphaël Heinzer, on parle de santé mentale et santé physique. Les bienfaits peuvent être à la fois pour le corps et pour l'esprit.
Oui. Alors, le travail posté ou le travail avec des horaires irréguliers est extrêmement pénible pour le corps et pour l'esprit puisqu'on doit dormir à des moments où notre cerveau a plutôt envie d'être réveillé et on doit être réveillé et concentré à des moments où notre cerveau aurait envie de dormir. Donc c'est extrêmement pénible et le sommeil de jour dans un moment qui n'est pas une des fenêtres de sommeil est de moins bonne qualité, d'où ensuite un manque de sommeil et le besoin tout à fait de faire ces siestes qui sont très réparatrices, alors vraiment pour autant physiquement que mentalement, bien sûr.
Message de Sarah. Est-ce que la cohérence cardiaque est considérée comme une sieste? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la cohérence cardiaque? Corinne Mahoué?
Oui, tout à fait. C'est une technique de relaxation. On va mettre en cohérence le rythme du cœur avec le rythme de la respiration.
Comment est-ce qu'on fait?
Il y a des petites applications. Ce qui est bien, c'est d'avoir un rythme à suivre. On voit descendre et monter comme ça, un petit indicateur rouge ou vert, si on est en cohérence ou pas. Ça dure quelques minutes. En sophrologie, la technique que j'avais commencé à vous introduire va dans ce sens-là aussi. Quand on ralentit la respiration, on va ralentir aussi notre rythme cardiaque. On va ralentir au sens général, finalement. On va se poser.
Est-ce que ça compte comme une sieste? C'est ça que nous demande aussi Sarah dans sa question. Ça équivaut, c'est autre chose?
Alors, moi, j'ai pas, à ma connaissance, d'études scientifiques sur ces petites coupures. Mais par contre, il y a des études scientifiques, des recherches qui ont été faites. Je pourrais vous donner les références, si vous voulez, de l'Académie de sophrologie qui en parle sur les effets sur la santé de ces coupures, qui, encore une fois, sont pas toujours du sommeil profond, hein, juste au bord du sommeil. Oui, ça a un effet. En tout cas, moi, les retours, je dirais, textuels que j'ai des personnes que j'accompagne en entreprise me disent, après, j'ai beaucoup plus d'énergie, je me sens plus léger, plus entreprenant et j'ai plus de recul pour prendre des décisions.
Gabriel nous dit, j'ai une capacité terrible de tomber assoupi dans toutes sortes de situations. Je crois que j'ai appris ça à l'école de recrues. J'ai maintenant 55 ans de plus. Voilà. Raphaël Heinzer, il y a eu un dérèglement, un moment dans la vie de Gabriel. Il a tendance à tomber, à s'endormir. Qu'est-ce qu'on lui dit?
Alors, le besoin excessif de sieste doit être un signe d'alarme quand même. Donc si, par exemple, quelqu'un n'avait pas besoin de sieste pendant un certain temps et tout à coup a besoin de sieste, c'est peut-être que son sommeil nocturne est de moins bonne qualité. Si, par exemple, il garde la même durée de sommeil pendant la nuit, tout à coup il y a de la somnolence avec un besoin de sieste, c'est peut-être qu'il a développé une maladie du sommeil, peut-être des apnées du sommeil ou d'autres phénomènes qui perturbent la qualité du sommeil. Et là, ça vaut la peine de se poser la question pourquoi. Maintenant, si ça a commencé à l'école de recrue, effectivement, c'est peut-être quelque chose de plus ancien. Et là, il y a des gens qui ont une capacité énorme à s'endormir. Donc, s'il est en privation de sommeil, c'est extrêmement précieux de pouvoir s'endormir rapidement pendant la journée.
Recommandation à Gabriel, voir un spécialiste peut-être?
Alors, si il y a un besoin de sommeil nouveau et inhabituel et plus prononcé que précédemment, oui, là, il faut se poser la question quand même de la qualité du sommeil nocturne.
Nadia nous écrit, je ne fais pas la sieste régulièrement, mais quand je la fais, j'ai du mal à m'endormir. Alors, imaginez de ne dormir que 10 minutes, c'est problématique, hein, il y a un stress. Avez-vous des conseils pour s'endormir plus vite pour faire la sieste? Corinne Mahoué, Raphaël Heinzer.
Oui, alors il y a des techniques comme celle qu'on vient d'introduire qui permettent de ralentir et de se centrer sur le corps. Parce que souvent, ce qui empêche de dormir, ce sont des ruminations mentales ou des émotions mal digérées de la journée qui ressortent. Donc, en se remettant dans le corps, on est au présent et ça passe.
Raphaël Hunter. Alors,
si on a très bien dormi la nuit et qu'on n'a absolument pas envie de dormir la journée, il ne faut pas non plus se forcer à faire la sieste, ce n'est pas une obligation. Mmh. C'est surtout chez les gens qui n'ont pas pu obtenir ce qu'ils avaient besoin pendant la nuit, qu'à ce moment-là, c'est très utile de faire la sieste.
Est-ce que là, la musique, est-ce qu'un casque avec, il y a des bruits de vagues, il y a des musiques tibétaines, enfin tout ça existe, est-ce que ça peut être, à la place d'une image dont on parlait tout à l'heure, est-ce que ça peut aider, Corinne Mao?
Alors évidemment, il y a des sons qui sont propices, mais ce qui est vraiment plus intéressant, c'est d'aller chercher ça au fond de soi finalement, parce que, comme je disais, c'est qu'on n'est plus dans le corps qu'il y a des difficultés pour écouter le besoin du corps s'il a besoin de dormir. Encore une fois, comme s'il n'a pas besoin, bah, il n'a pas besoin, tant mieux. Donc je dirais plutôt essayer d'aller à l'écoute du corps que de la musique, c'est sympa, mais ça n'a pas la même richesse.
Trouver les ressources en soi. Jérôme, si je suis fatigué, le soir je vais au lit, je me réveille 2 heures plus tard, je ne peux pas me recoucher seulement 1 heure plus tard, je ne dors pas assez, donc je suis obligé de faire des longues siestes pendant la journée. Raphaël Hunter, là aussi on a un sommeil déréglé, qu'est-ce qu'on dit à Jérôme?
Alors là, il y a donc des vases communicants entre le sommeil qu'on obtient la journée et le sommeil de nuit. Donc si notre sommeil de nuit est fragile, si on a de la difficulté à s'endormir ou des réveils répétés, il faut faire attention de ne pas faire trop de siestes pendant la journée, autrement ça crée un sort de cercle vicieux. Le sommeil de la journée diminue la qualité du sommeil de nuit, etc. Donc peut-être commencer par ne plus faire la sieste pour renforcer le sommeil de nuit pour lequel on dédie une période vraiment bien circonscrite.
Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à toutes les nombreuses questions de notre public. Raphaël Hunter, professeur associé et médecin-chef au Centre d'investigation et de recherche sur le sommeil au CHUV à Lausanne, et Corinne Mao, sophrologue, spécialiste en bien-être et santé au travail, membre de l'Institut de la qualité de vie au travail. Merci aussi pour ce petit atelier, ce moment de somnolence que vous nous avez proposé tout à l'heure. Merci également à nos standardistes du jour, Mathilde Pelletier, Marie Prat et Delphine Sage et Mathias Bruniman à la régie.